Ce soir, nous avons la chance d'avoir deux réalisatrices de cinéma, deux films à l'affiche en ce moment. Loin de vous, j'ai grandi. C'est Marie de Mora qui continue sa quête documentaire, familiale et généalogique. Et puis Audrey Diwan pour l'événement, d'après le texte d'Annie Ernaux. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Aurel San, Jour meilleur.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Deux films à l'affiche cette semaine, deux films importants, deux films singuliers qui pourtant ont des échos et des passerelles entre eux. Il s'agit de l'intime, il s'agit du statut des femmes, il s'agit du devenir des êtres. Première question qui s'adresse à vous deux, pourquoi faites-vous du cinéma, Audrey Diwan? Parce que vous avez fait beaucoup d'autres choses aussi avant.
Pour moi, c'était l'aboutissement en fait d'une somme d'expériences qu'on peut juger disparates de loin. En fait, j'ai cherché toute forme d'écriture avec beaucoup de, avec un maximum de liberté, en fait. Et puis un jour, en passant du journalisme à l'écriture romanesque, puis à l'écriture scénaristique, et à la rencontre du texte, j'ai eu envie de poser des images qui seraient les miennes dans le prolongement de cette expérience-là.
Vous n'avez pas fait d'études cinématographiques, vous êtes une autodidacte.
J'ai vraiment beaucoup appris au Vidéoclub. J'ai appris en voyant énormément de films. J'en vois à peu près tous les matins, vers 6h du matin. C'est ça mon école. Moi, j'ai plutôt étudié les sciences politiques et le journalisme. Et puis après, j'ai appris de manière empirique, comme on dit.
Marie de Mora, cela fait longtemps qu'on connaît votre travail, remarqué et remarquable. Vous avez inventé un genre de cinéma qui se situe à la frontière du documentaire, du cinéma du réel et peut-être même d'un peu de fiction. Comment a commencé votre addiction au cinéma ?
C'est une question difficile. J'ai commencé par lire, par beaucoup lire de... J'étais une lectrice, en fait. Et puis, le ciné-club du collège, un tout petit collège, tout bêtement, où on voyait des films extraordinaires. Et puis, aller au cinéma un peu en cachette, quand j'étais très jeune, pour aller voir ces films. Et puis, ça a accompagné, ça a été formateur, les films et les romans, c'est ce qui m'a forgé. J'ai pas fait d'études non plus de cinéma, mais j'ai eu envie, une espèce d'élan de... un désir, en fait.
Alors, à quel moment et comment s'est opéré le basculement? À quel moment avez-vous décidé, Marie Dumorat, de prendre la caméra sur l'épaule? Il paraît que la vôtre, elle pèse très, très lourd.
Et elle pèse son poids. Ben oui, à chaque fois, je le dis. C'est vrai que quand je filme, j'essaye d'être très visible auprès des gens que je filme. C'est censé être...
Donc, pas du tout vous faire oublier?
Non, surtout pas. Au contraire, me prendre les pieds dans le tapis s'il le faut. Aller avec mon ingénieur du son, Aline Hubert, qui est toujours avec moi, qui est très imposante.
Et avec qui vous signez tous vos films?
Oui, en tout cas depuis La Place, le film où je suis allée pour la première fois chez les Manouches de l'autre côté des rails, où j'ai suivi un des personnages qu'avait rencontré l'héroïne du film précédent. Et c'est vrai que c'est une façon d'être, c'est une façon de construire quelque chose, de construire une maison pour les personnages que je filme. Et quand on construit une maison, ben on est là. On est
donc pas... le cinéma, c'est comme l'architecture, alors, pour vous?
Oui, c'est une façon de construire un monde, de construire une maison, de construire un espace, comme on construit, comme dans le film, le jeune garçon construit une cabane. Peut-être que faire le cinéma, c'est aussi se construire une cabane pour soi, entre le monde extérieur, le fort intérieur, le monde intérieur, et voilà, et aller vers le monde.
Et pour vous, Audrey Diwan, c'est aussi une sorte de refuge, le cinéma. Vous avez dit tout à l'heure que c'était mettre des images sur des mots. Le moment où vous avez pris la caméra, vous saviez où la mettre, vous saviez quel cadre vous alliez adopter, vous saviez quel rythme vous alliez... déterminé pour faire ce film, l'événement?
Alors moi, je le vois vraiment comme le contraire d'un refuge. Mais je pense que j'étais attirée par l'œuvre d'Annie Ernaux au départ, parce que elle a une manière de mettre le jeu au centre de l'écriture, et puis de le traiter avec une forme d'honnêteté, de sincérité, qui parfois flirte avec la cruauté. Donc moi, je vais faire des images en me disant qu'on ne fait jamais l'économie de soi dans ces cas-là, et donc qu'on montre quelque chose de soi qu'on entendait taire jusque-là, et que c'est à ce prix-là que les choses se font. Pour moi, c'était un récit. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire d'Annie Ernaux, et j'y mets quelque chose de très intime. Et oui, j'avais envie d'en faire non pas un récit linéaire, mais une forme d'expérience qui convoque le corps, en fait, qui engage les sens du spectateur. Et pour ça, j'avais des idées très précises sur le cadre, sur la durée des scènes, sur la manière dont je voulais essayer de partager une expérience et pas juste de le montrer.
Alors, vos films ont des passerelles, on le disait tout à l'heure, il s'agit de femmes, de sorts et de destins de femmes. Ça n'est pas situé à la même période. Vous, Audrey, comme dans le texte d'Annie Ernaux, l'histoire se déroule en 1960. Même si vous avez décidé de mettre ce récit, finalement, dans un climat d'aujourd'hui, votre récit est d'une modernité absolument incroyable, comme si ce qui se passait en 60 devient aujourd'hui actuel, parce qu'effectivement, l'avortement est peut-être une question qui demeure encore brûlante, pas encore en France, je l'espère, mais en tout cas dans d'autres pays. Quant à vous, Marie Dumorat, vous avez adopté un fil chronologique, parce que votre histoire de cinéaste se déroule dans un habitacle particulier et fait partie finalement d'une décision d'amour. On peut peut-être prononcer ce grand mot d'amour. Vous avez trouvé une famille, vous avez trouvé d'abord deux sœurs, c'était il y a longtemps. Elles étaient petites filles, elles vous ont plu, vous avez eu l'autorisation de les filmer, elles ont accepté d'être filmées. Et puis petit à petit, vous avez décidé de prendre votre caméra et de dérouler l'histoire de leur vie depuis ce moment-là. Deux petites filles qui avaient été hélas obligées d'être mises en foyer et qui ont quand même, avec beaucoup de courage et de dignité, construit leur propre vie. Aujourd'hui, avec ce nouveau film, Loin de vous, j'ai grandi, on en est à l'âge des enfants d'une des deux sœurs. Pouvez-vous expliquer comment s'est conçu ce devenir cinématographique avec cette histoire de famille sur combien, 20 ans maintenant ?
Oui, enfin 15 ans, très exactement, puisque j'avais filmé le... J'avais fait un film qui s'appelait « Je voudrais aimer personne » où j'avais filmé le baptême de cet enfant qui s'appelle Nicolas. J'avais filmé sa mère qui était assez jeune quand elle a eu cet enfant, que j'avais donc filmé à 16 10 ans. Ouais. Et qui est formidable d'ailleurs, enfin qui me faisait penser un petit peu au personnage d'Antigone qui allait toujours des uns aux autres pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans la famille. Pour plein de raisons, elle a eu l'intelligence de confier cet enfant plutôt que de faire n'importe quoi.
Enfin, plein de raisons, c'est aussi parce qu'elle a été emprisonnée et que donc...
Non, elle n'a jamais été en prison.
Voyez, dans votre film, j'ai cru comprendre.
Non, c'est une licence politique, politique, quel lapsus, poétique, parce qu'elle dit à un moment, regarde, on va où en prison, mais c'est une façon de nommer le foyer, mais c'est parce qu'elle a de l'humour et qu'elle... Mais en fait, elle est... Non, elle n'est jamais allée en prison, Sabrina. En tout cas...
C'était une forme de prison pour elle, oui. En tout cas, que de se séparer de son propre enfant. Il est important de préciser que... Ouais. Elle vient d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, elle était assez démunie, elle s'est mariée très jeune. Et en écho au film d'Audrey Diwan, on peut dire, parce que ça je crois que c'est ce qu'on comprend, nous spectatrices et spectateurs, elle n'a pas forcément décidé d'être mère à 16 ans.
Je pense que moi je trouve ça formidable de pouvoir être, je vais vous dire quelque chose peut-être un peu énorme, mais je trouve ça aussi formidable de pouvoir être mère à 16 ans. C'est aussi la vie qui jaillit, c'est aussi un désir. Je sais que c'est pas bien de dire, mais je trouve que moi je trouve ça formidable qu'il soit né cet enfant-là. Je trouve ça formidable.
Mais ce qui est moins formidable, c'est qu'elle est obligée de le placer dans un foyer.
Oui, mais au fond, elle le voit, ça c'est certain. Mais ils se voient les week-ends, ils se sont vus les week-ends. Il y a aussi des parents de milieux très privilégiés qui vont mettre leurs enfants au pensionnat et qui vont aussi les voir les week-ends, qui vont les coller en Suisse ou que sais-je. Au fond, bien sûr, c'est rude, mais c'est très rude. Mais je trouve que ils en font tous quelque chose d'assez remarquable dans cet exil qu'ils ont tous, puisque dans mon film, il y a que des exilés. Le jeune Saïf qui vient de Tunisie par la mer, etc. Mmh. Ce jeune garçon avec qui Nicolas construit des cabanes. C'est un exilé et il décide de tenir droit dans sa verticalité. Et ils sont tous dans leur axe et dans la force de leur fort intérieur. Chacun, avec son style, sa façon d'être, ils essaient de trouver leur place. Et ils le font, je trouve, avec beaucoup de panache, quand même. Et sa mère pareil.
Avec
donc,
beaucoup de grâce, même.
Ouais, ils sont quand même, voilà. Et au fond, on en appelle à des grandes figures comme Judith. Enfin, c'est peut-être un peu facile, mais en fait, non, c'est toujours l'éternelle histoire de l'humanité. Dans cette vallée, en plus, qui est très très belle, où la barbarie le dispute à la beauté, puisqu'il y avait le foyer situé entre deux ex-camps de déportation et de concentration, consacré aux gitans, aux yéniches, aux homosexuels, aux résistants, aux handicapés, et tutti quanti. Donc, finalement, c'est l'éternelle histoire de l'humanité, et ces petits garçons-là, ils en font quelque chose qui, moi, me bouleverse et me porte. Pour moi, c'est presque une leçon de vie, en fait.
Alors, il faut parler de votre cadre, la manière dont vous situez cette histoire. Il y a un cadre cinématographique qui est très important dans votre cinématographie, Marie Dumorat. Le tout début de votre film se passe dans une forêt où ce Nicolas, qui a 13 ans à l'époque, parle avec un de ses copains dans cette forêt qui environne le foyer. Vous donnez tout de suite le ton, il lit à un moment l'Iliade, on est dans un récit mythologique et lui va réussir à s'inscrire grâce à son intelligence, grâce à sa bienveillance, grâce à son inventivité dans une histoire commune. Comme vous l'avez fait remarquer, il n'a jamais rompu avec sa mère. Sa mère n'a jamais rompu avec lui, mais cette mère qui va reconstruire sa vie avec un autre père que celui de Nicolas et qui va avoir elle-même d'autres enfants, va se retrouver dans la situation où elle était quand elle était adolescente. Elle était fugueuse, ses parents la cherchaient, étaient inquiets, et tout d'un coup, la voilà de nouveau précipitée dans les affres justement d'une mère qui s'inquiète de Nicolas, qui commence... À fuguer, nous allons écouter Sabrina qui parle des fugues de Nicolas, extrait du film de Marie Dumorat, Loin de vous, j'ai grandi.
Tout doucement, il commence un peu à fuguer et tout, alors c'est un peu compliqué.
Comment ? Il fait des bêtises aussi ?
Ouais,
ouais. Mais quelle histoire, ça ?
Oui, oui, ils sont allés au camping à Strasbourg, à la Montagne Verte.
Ah bon ?
Oui.
Mais
il connaît personne, moi je connais personne à Strasbourg, mais il se laisse entraîner par les enfants qu'il y a au foyer. Ben, je sais pas trop si... Ils l'ont fait marcher pendant 2 semaines. Il a marché 130 kilomètres. Le foyer, ils l'ont fait marcher pendant 2 semaines pour qu'il... Pour qu'il réfléchisse aux conneries qu'il a fait.
Pour qu'il réfléchisse.
Oui. Mais je sais pas trop si ça a marché, quoi. Alors, on verra. Autrement, il est bien. Autrement, il est calme. Il fait tout à l'école. Mais c'est vrai qu'il passe par un mauvais passage.
Mais oui, mais attends. Tu sais qu'à 14 ans, c'est toujours comme ça un peu, non?
Ouais.
C'est un peu comme ça, non?
Il se sent tiraillé entre le foyer et sa mère. Il sait pas trop quoi choisir. C'est compliqué, hein.
Mais oui, mais il peut choisir les deux.
Mais oui, mais lui, il l'a pas compris, ça. Soit il met le foyer de côté, soit il me met moi de côté. C'est ça qui est triste.
Que tu lui expliques qu'il peut choisir les deux. Quand aussi t'as choisi les deux.
Mmh.
Non, tu te rappelles plus?
Si. Ouais, mais moi j'avais une mère qui valait pas le coup. Lui, il a une mère qui valait le coup. Moi, je me casse la tête pour lui et tout.
Mais c'est bien. Il faut pas trop le bousculer, hein. Il a sa vie à lui, hein.
Ouais, ouais, parce qu'il a pas vécu avec moi, donc il a sa vie à lui. Je lui dis que tu l'aimes.
Nous venons d'entendre donc un extrait de votre film, Marie Dumorat, où cette mère parle à l'ancien directeur du foyer où a été élevé Nicolas. Et on voit bien que cette conversation mène à l'acceptation de l'autre avec un grand A. Car toute votre cinématographie, et ce depuis pas mal de temps, s'inscrit dans un registre de la compréhension des êtres. Et des êtres qu'on ne voit que extrêmement rarement dans le cinéma. Pourquoi et comment savez-vous être au bon moment?
Je pense que c'est eux qui sont dans une espèce de présence au moment et à la vie qui est tellement forte que je suis entraînée. C'est un peu entre le désir, moi, de les voir advenir, dans ce qu'on vient d'entendre, qui est un moment du film, mais ils sont quand même, ça circule, la relation est bonne, en fait, entre la mère, le fils et même la mère de la mère. Et c'est des moments de la vie. Enfin, un enfant à 15 ans, forcément, c'est compliqué pour tout le monde. Mais ça marche. Mais c'est cette espèce de présence au présent, de force, de vitalité, qui moi m'entraîne probablement. Et c'est probablement ça que je cherche, c'est-à-dire exister malgré tout, et bien, et plutôt bien, alors que rien n'est fait dans la société. Enfin voilà, ce sont des gens qui sont un peu complètement injustement, qui ont été. Le grand-père a été déporté. L'a vécu comme une péripétie supplémentaire. Il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance de ce génocide. Enfin, c'est pas rien non plus d'être issu de tout ça. Mais tout ça est vécu comme si c'était...
Car cette famille appartient à la communauté yéniche.
Oui. Oui. Alors, en même temps, on le comprend assez tard dans le film, parce que je voulais certainement pas mettre comme ça une étiquette « voici nos amis yéniches », parce que c'est trop facile. Après, on regarde les autres comme un autre. Or, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui résonne, ce qui peut faire écho chez nous. C'est vraiment une histoire très universelle. Simplement, dans l'humanité, il y en a certains, ça leur prend comme ça. Il s'appelle Hitler, il s'appelle, que sais-je, tous ces fâcheux. Ça leur prend comme ça de prendre un groupe et de l'isoler, parce que probablement, je sais pas, j'imagine ça les rassure de porter des gens. Ça arrive assez régulièrement. Enfin, c'est triste, c'est notre histoire. Et je voulais pas tout de suite mettre ça comme ça au début du film. On le comprend un peu vers la fin du film, par la façon dont le grand-père regarde cette photo de ses parents à lui, qui ressemble à une photo de Walker Evans en noir et blanc, qui est très belle, où on voit ses parents avec des enfants, les roulottes au loin, etc. Et qui dit, ce qu'il y a, c'est que mes parents, ils auraient peut-être pu se rencontrer autrement que dans un camp de déportation. Ils avaient 8 ans, ils avaient 14 ans. Mais ils sont aimés, ils ont eu 8 enfants, ils ont reçu 8 enfants. Bon, ça, je trouve ça formidable. C'est quand même une façon de reprendre la main. Et le cinéma, c'est aussi reprendre la main sur la vie.
Il y a une autre scène, une autre teinte à l'intérieur de votre film, Marie Dumorat, c'est que c'est l'évolution de la construction d'une personnalité. C'est l'âge des possibles, tout peut arriver, il peut fuguer, il peut partir avec les copains, il peut disparaître. Mais en fait, il est très intéressé par la musique classique, il est très intéressé par la mythologie, il est très intéressé par la cosmogonie, très intéressé par la soif d'apprendre. Et ce film, ce nouveau film de vous, Marie Dumorat, s'inscrit dans cette espèce de possibilité pour chacun d'une éclosion de sa propre personnalité. Nous allons écouter une seconde scène de votre film, Loin de vous, j'ai grandi. C'est quand Nicolas décide de partir de son foyer, qui était donc son second refuge. On l'écoute.
Vanessa, mon ex, elle habitait sur Lyon. Amour de vacances?
Non, c'est elle qui m'a fait grandir.
C'est vrai?
Ouais. Tu vois, j'étais avec elle 5e, 4e. Hein.
T'as des bonnes notes?
Ouais. Ouais. Je faisais pas de conneries.
Ouais, oui.
Hein? Quand t'étais avec elle, tu faisais jamais de conneries? T'es plus avec, tu recommences?
Moi, je suis un enfant modèle ou pas pour le coup? Hein, frère?
T'as pu l'être, ouais.
Tu manques une combinaison, frère.
Prends tes affaires, Diane.
Il m'a pas
vu. Ah, lui, ça va bien.
Bah, j'ai la valise, après j'ai deux sacs 19h. Ouais. Allô, Mérina? Ouais, Nicolas, il rentre après, hein? Ouais, je rentre à la maison après? Ouais, je vais à la maison. Salut. Tu sais, Geoffrey, mes parents se sont rencontrés, mes grands-parents, au camp de concentration à Chermec.
Ah ouais, putain.
À côté du foyer, ils se sont rencontrés.
Ouais, pas très loin.
Ouais. Je suis pas le seul paumé qui vient de Chermec, de ma famille. Ils ont réussi à s'échapper, ils ont reçu 8 ans. J'ai remercié, ouais, j'ai remercié parce que grâce à eux, ben, je suis vivant, je suis né.
Tu serais pas là, si t'avais pas réussi à s'échapper, tu serais
ouais,
pas là.
T'aurais pas le plus beau gosse des entre deux. Ouais, ouais.
Cette scène se situe aux deux tiers du film, à peu près, Marie Dumorat. C'est le moment où Nicolas va prendre son envol. Il va quitter les nids et les petites huttes qui ont été construites pour lui et par lui, d'ailleurs. Et c'est un film magnifique sur, justement, la confiance qu'on peut avoir en soi, alors que rien ne vous a été donné.
Oui, et c'est assez... c'est vrai que c'est un... Merci d'avoir choisi cet extrait, que c'est un moment très assez poignant, parce qu'ils, comme ils font toujours, ils se plaignent absolument jamais qu'ils aient traversé la Méditerranée en canot pneumatique ou construit des cabanes dans l'indifférence générale. Il faut tout le temps quitter, retrouver, et tout ça sans se plaindre. Et ça, je trouve ça bien en fait, parce que la vie, c'est aussi quitter, c'est aussi avoir encore l'audace de prendre des risques, d'aller rencontrer autre chose et d'avancer, de marcher. Et ça, je trouve ça bien.
Audrey Diwan, vous avez eu, je crois, la chance de pouvoir découvrir ce film de Marie Dumorat. Mmh. Où vous a-t-il entraîné?
En fait, j'adore le mélange de sincérité et de volonté de ce jeune homme. Alors moi, je suis toujours très sensible au sujet du déterminisme et de voir comment on y échappe et comment on peut à un moment écrire sa propre vie. Et lui, je le trouve désarmant parce que je trouve que son désir est palpable, en fait. Et c'est pas un hasard, je pense, qu'on le voit en train de lire Ulysse au début. Mais c'est pas un hasard quant au choix du livre, mais c'est pas un hasard quant au choix de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un imaginaire qui va le porter, il y a quelque chose qui est construit en lui et qui lui permet certainement, ce que vous disiez, de se réapproprier son vécu pour le faire sien. Et c'est ça, à un moment, l'écriture de son propre récit. Mmh. On s'empare de son histoire et puis on voit où on peut l'emmener soi-même. J'ai été extrêmement touchée par le parcours de ce jeune homme, mais surtout par ce qu'il a de solaire.
Oui, merci. Et sa mère aussi. Et puis, il faut aussi qu'on parle de votre film. Mais sa mère aussi. Enfin, tout le monde a un imaginaire assez fort. Et c'est ça que je trouve formidable. Parce que ça, c'est un peu acharné implacablement. Bon, enfin, voilà, c'est la vie un peu raide, un peu rude. Mais là-dedans, il y a quand même une force de l'imaginaire qui, au fond, c'est ça la vraie vie, quoi. Enfin, c'est l'imaginaire, c'est d'être capable de, en voyant un camion passer, de dire, ah bah tiens, je prendrais bien la route, ou en disant le camion, il est beau le camion de papa, ou des choses comme ça, les petites qui rêvent sur leur robe, qui sont formidables, Madina, Milina, tout ça.
C'est l'endroit par où le chemin s'ouvre,
quoi. Oui. Et l'astronome dans le film, qui est aussi dans son imaginaire à lui, c'est aussi un exilé. Visiblement, il a pas trop réussi à s'épatouiller avec la compagnie des hommes, et il est parti dans ses astres à lui, dans ses étoiles. Chacun trouve son petit chemin comme ça,
et
sa petite route de... C'est comme un conte un peu, en fait.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue avec deux réalisatrices, Marie Dumorat et Audrey Diwan. Vous écoutez le choix musical de Audrey Diwan pour notre plus grand bonheur, Cat Power. Start me, yeah, yeah.
C'est la surdétermination, c'est-à-dire que c'est pas vécu seulement comme un gros ennui, un gros pépin qui arrive, c'est vécu aussi comme une fatalité, une sorte de fatalité sociale qui, à cette époque, effectivement, c'est-à-dire, pour dire les choses très crûment, j'aurais été enceinte et dans un milieu bourgeois, ça aurait été différent. Ça aurait été différent parce que là, il était certain d'abord que je n'avais pas accès à tout, les choses parallèles qui permettaient de trouver un médecin qui accepte, ou d'aller en Suisse, puisque c'était possible aussi. Et que là, j'étais condamnée évidemment à la faiseuse, ce qu'on appelait la faiseuse d'ange. Mais aussi, il y avait cet immense sentiment que j'étais en train de perdre toutes les chances. De perdre des chances d'avoir fait des études, c'était, oui, je vivais sur ce mode de l'échec social.
Nous venons d'entendre la voix d'Annie Ernaux, c'était au moment de la publication de son livre L'événement, Audrey Diwan, et quand on voit votre film, il y a plusieurs fragments du texte d'Annie Ernaux qui nous reviennent à la mémoire. Vous avez été d'une loyauté, d'une transparence avec ce texte très important. Quand avez-vous lu ce texte pour la première fois, vous qui êtes d'une jeune génération, et qu'avez-vous éprouvé quand vous l'avez lu, alors que vous vivez dans un temps où l'avortement était libre quand vous étiez une jeune fille?
Alors justement, moi j'ai découvert ce texte peu de temps après avoir avorté. J'avais beaucoup lu Annie Ernaux, mais je ne connaissais pas ce texte-là, et puis j'avais envie de lire sur le sujet, et une amie me conseille L'événement. Et bon, d'une part,
donc au moment de l'avortement libre et gratuit.
Oui, exactement. Mais je pense qu'en fait, ma sidération, elle vient de là. C'est-à-dire que je confronte deux expériences. Mon expérience d'avortement médicalisé à celui de l'avortement clandestin. Je réalise d'abord tout ce dans quoi je me suis pas projetée. C'est-à-dire, je connais ces mots, mais je ne connais pas leur réalité. Et puis,
C'est-à-dire, vous ne réalisez pas ce qui vous arrive.
En fait, je vais vous dire. Je trouve que il y a déjà comme un désordre sémantique. C'est-à-dire que derrière avortement clandestin, on trouve des termes comme faiseuse d'ange, on a les queues de persil, on a les aiguilles. En fait, rien n'amène à une réalité tangible. Or, je rentre dans le livre et d'un bout à l'autre du récit, d'abord, je suis prise par un suspense que je trouve intenable, un genre de suspense intime qui m'empêche de reposer le livre avant de l'avoir fini.
Que vous allez restituer à l'intérieur de votre propre film, suspense.
Et voilà, évidemment, ce suspense me guide, mais en fait, il y a beaucoup, il y a une grosse part de l'ADN du livre qui m'a guidée de manière très précise, en fait, dans la manière dont j'avais envie de mettre en scène.
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, Audrey, que quand vous avez lu le livre d'Annie Ernaux, L'événement, qui se passait donc dans les années 60, au moment où l'avortement n'était pas autorisé, et même clandestin, et même poursuivi par la justice, finalement, vous avez vous-même éprouvé, beaucoup plus tard, dans le temps, des choses que Annie Ernaux déjà retranscrivait.
En fait, j'éprouve dans le corps son récit à elle. Je me dis, mais la première chose qui me frappe, c'est qu'en fait, la différence fondamentale entre un avortement médicalisé et le parcours de cette jeune femme, parce que moi, je ne raconte pas l'avortement clandestin, je raconte son parcours, je m'attache à un personnage. Ce qui me semble fou, c'est que son histoire, elle est tissée de hasard. Et en fait, quand je réfléchis, je me dis, mais chaque parcours d'avortement clandestin, chaque chemin est différent, parce qu'il est, il est fait du hasard des rencontres. Est-ce que vous allez en mourir ou être en vie? Est-ce que vous allez finir en prison ou est-ce que vous serez libre? Tout ça n'est que le fruit de ce hasard-là.
Alors, ceci dit, il y a un déterminisme social que vous restituez admirablement dans votre film, Audrey Diwan, c'est l'origine de la classe sociale. Ouais. Annie Ernaux vient de le dire dans l'archive qu'on a entendue au moment de la publication de son livre. Et là, dès vos premières images, on sent bien que ça constitue une sorte de prison, l'origine sociale.
Ah oui, là, il y a moins de hasard. Effectivement, quand on parle de l'origine sociale, de ce que c'est, parce que ce personnage, pour moi, il est passionnant pour ça. Hein. C'est une jeune femme issue d'un milieu prolétaire qui est la première de première génération à aller faire des études. Donc c'est déjà, en termes de bagages, en termes de valises, c'est déjà un chemin, en fait. Et elle dit, dans le livre, je me suis faite engrosser comme une pauvre. Et je comprends ce que ça veut dire, très
comme
bien.
Comme une pauvre.
Oui, je comprends très bien ce que ça veut dire. Je trouve ça fou de se dire qu'on vit la même chose. C'est exactement ce que dit Annie Ernaux. On vient d'un milieu bourgeois. On ne met pas sa vie en péril. Donc, il y a vraiment une dimension de la classe sociale qui innerve tout le récit, parce que moi, j'ai le sentiment de voir cette jeune femme qui s'élève par la tête et qui est ramenée à sa condition sociale par le corps.
Alors, il y a aussi quelque chose de très insistant à l'intérieur de votre cinématographie, Audrey Diwan, c'est la manière dont vous restituez la dignité du corps de cette jeune femme. C'est un film aussi sur le corps, l'apparence du corps. Ces jeunes femmes ont 18, 20 ans, elles sont pas forcément très à l'aise avec leur corps, surtout quand elles sont obligées de vivre dénudées, notamment au moment des douches, parce que ça se passe dans une cité universitaire. Et elles, comme une pauvre, pour reprendre les termes d'Annie Ernaux, elle essaye de cacher son corps, de protéger son corps. Et vous avez une manière presque de rendre très digne, par une espèce de blancheur de l'image, le corps de l'héroïne.
Alors c'est quel regard on porte sur le corps de la jeune femme? Et en l'occurrence, moi j'essaye de penser à son regard à elle sur son corps de jeune femme. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans, d'éprouver du désir, quand ce désir est condamné, quand on doit vivre dans la frustration? Qu'est-ce que c'est que de transiger? Qu'est-ce que c'est que de découvrir son corps au moment même où il faut l'abîmer? Enfin, voilà. Et qu'est-ce que c'est que de ce que ce regard érotisé sur un corps quand seulement on a envie de faire l'amour? Vous voyez? Donc moi j'essayais juste d'être en prise avec
c'est
ce regard de jeune fille.
C'est une dimension très importante dans le livre de Annie Ernaux.
C'est important.
Elle a envie de faire l'amour et elle fait l'amour quelles que soient les conséquences.
Et moi, je trouve très beau l'idée comme ça d'assumer le désir de la femme à l'écran. Mais vous
elle
savez,
n'a pas de culpabilité. La culpabilité va lui tomber dessus après.
Mais je pense qu'elle est dérangeante aux yeux de la société pour ça au départ. C'est qu'on lui demande de se sentir coupable. On lui demande d'appréhender la grossesse si elle ne veut pas de l'enfant comme la juste punition d'un désir auquel elle s'est entre guillemets laissée aller.
Alors, je vous propose d'écouter un premier extrait de votre film, Audrey Diwan, c'est l'annonce de la grossesse.
Quel genre de douleur?
Ça fait comme des crampes.
Enlevez votre culotte, s'il vous plaît. Pliez les jambes. Avez-vous un retard de menstruation? Vous avez déjà eu des rapports?
Non.
Jamais?
Jamais.
Vous n'avez pas de fiancé?
Non.
Vous êtes enceinte, mademoiselle. Je suis désolé.
C'est pas possible.
pouvez pas me demander ça. Ni à moi, ni à qui que ce soit. La loi ne fait pas de cadeaux. Toute personne qui vous aiderait risque de finir en prison, et vous avec. Et encore, si vous arrive pas le pire. Tous les mois, on ajoute un nom à la liste de celles qui ont tenté leur chance, et elles meurent dans d'atroces souffrances. Vous ne voulez pas être de celles-là, croyez-moi.
C'est pas juste. Peut-être que ça ne tiendra pas, ça va pas forcément au bout.
Peut-être, oui.
Voilà, c'est le monde qui lui tombe dessus, c'est l'impossibilité de poursuivre son existence, et c'est aussi très important à l'intérieur de la tonalité de votre film, Audrey Diwan, c'est une opposition permanente entre cette jeune femme, on parlait du jeune Nicolas de 13-14 ans chez Marie Dumorat, mais votre héroïne, elle a 18-20 ans, c'est l'âge aussi des possibles, et puis tout d'un coup, tout est barré. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'espoir. Et c'est cette sourde opposition tout au long de votre film entre « je veux apprendre, je veux avoir des diplômes, je veux être enseignante, et puis mon corps va pas me lâcher, donc c'est la tête qui va gagner ».
Oui, alors c'était pour moi une grande réflexion sur comment on crée l'urgence. Et en adaptant le texte, au départ, je me suis complètement trompée. Je pensais que comme elle était dans l'urgence, il fallait que je crée des scènes courtes pour traduire cet état comme ça, ce désir d'avancer contre le temps. Et en fait, en poursuivant un parcours d'écriture, je me rends compte que c'est l'inverse. En fait, le temps reste le temps des autres et l'urgence est à l'intérieur de vous. Et moi, c'est ce que je ressens en faisant tout le film. C'est-à-dire,
d'ailleurs, qu'est-ce que votre film est séquencé par semaine, comme de le livre.
Le livre, en fait, s'appuie sur un journal intime. Et donc, je me disais, il faut que je rende la valeur de ce temps dont Annie Arnaud écrit, le temps avait cessé d'être cette succession de jours à remplir de cours et d'exposés. Il était cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi. Alors, c'est quoi le temps quand on va contre lui? Quand les autres continuent à être dans cette langueur, il y a du soleil, il y a de la jeunesse, l'envie de s'amuser, et qu'elles, les semaines, en fait, sont un compte à rebours vers un avenir et un horizon qui rétrécit. Donc, voilà, c'était sur le temps et son contre-temps.
Alors, il y a différents temps à l'intérieur de votre film qui passent comme une flèche, d'ailleurs, tellement, effectivement, on est suspendu au sort de cette jeune femme. Il y a aussi des temps très longs, vous les ménagez, et vous faites, vous imposez, j'emploie à dessein ce terme, parce que certaines et certains, plutôt certains d'ailleurs, vont sans doute vous le reprocher, vous nous faites quasiment vivre, à nous spectatrices et spectateurs, si j'ose dire en temps direct, ce que ça veut dire d'essayer de se faire avorter.
Bon, alors moi je pense que certaines idées pour être partagées ne doivent pas être théoriques. Donc si je vous dis que Anne a mal, mon personnage, et que ma comédienne joue la douleur, vous allez comprendre cette idée. Mais si je veux qu'on partage un ressenti, alors il faut intégrer à la réflexion, à l'image, la durée, le temps qui passe. C'est très dur à faire, parce que c'est très dur d'abord de demander à une comédienne de jouer, il faut trouver une note juste et la tenir. Il faut accepter l'idée tous ensemble, en plateau, équipe, etc., de tenir pour partager. Mais, et c'était très important pour moi, je ne veux pas que ça dure trop longtemps, parce que trop longtemps, c'est de la provocation. Or, pour moi, mon chemin, et on s'était promis avec Annie Arnaud, c'est le seul chemin possible, c'est un chemin qui serait, entre guillemets, juste. Et ce qui est intéressant, parce que c'est là où je découvre des choses, c'est le chemin qui s'ouvre entre les sexes, quand je montre le film, parce que certaines femmes ressentent cette douleur, mais les hommes aussi. C'est-à-dire que tout à coup, le chemin du film s'écrit dans les corps et dans le ventre de chacun, quel que soit le sexe. Je trouve ça intéressant de se dire que tout à coup, ça fait de la discussion autre chose qu'une discussion théorique.
Nous allons entendre un second extrait, les tentatives de perdre le bébé.
Vous m'avez pas laissé le choix.
Je n'approuve pas votre démarche, mais je comprends vos motivations. Fille mère, ce n'est pas simple. Vous êtes jeune. Vous avez la vie devant vous.
J'aimerais avoir un enfant un jour. Mais pas un enfant au lieu d'une vie. Vous vous rendez compte, je pourrais même lui en vouloir. Je sais même pas si je serais capable de l'aimer.
Et j'aurais voulu vous dire que vous avez réussi.
Non.
Je suis désolé. Le fœtus a tenu bon.
Mais il y avait du sang.
C'est une égratignure des muqueuses.
Alors, on va pas raconter la suite, parce qu'on va pas parler trop avant, hein, de ce film et de sa dramaturgie, si j'ose dire. Ce qu'on peut peut-être souligner, puisque vous disiez tout de suite, Audrey Diwan, que ce film avait provoqué aussi la prise de conscience de certains hommes devant ces massacres qu'ont été ces avortements clandestins. Il y a eu énormément de morts, il y a eu des femmes qui se sont suicidées, il y a eu cette souffrance physique et psychique qui pouvait durer des années, quelquefois toute la vie des femmes qui ont été avortées. Mais dans le film, comme dans le livre d'Annie Ernaux, il y a cette singulière collaboration des hommes qui sont plutôt du côté de la souffrance et du côté de la punition, y compris pour l'histoire qu'a vécue et endurée Annie Ernaux.
Alors, pour moi, il est toujours très important de regarder les personnages en les prenant à leur endroit exact, quelque part. Et pour moi, la plupart des hommes du récit sont le reflet d'une pensée d'époque. Et surtout d'une ignorance ou d'une méconnaissance folle, un, du corps de la femme, deux, de ce qu'elle traverse dans ces moments-là. Donc, et il y a des personnages, il y a un personnage qui m'a énormément touchée dans le livre, parce que pour moi, il est le meilleur symptôme. C'est-à-dire que le personnage de Jean, au départ, est le pire. C'est un jeune homme qui la fréquente à Anne à la fac, et quand elle lui demande de l'aide, bah lui, il essaye plutôt d'avoir une relation sexuelle avec elle, parce que comme elle est déjà enceinte, à son avis, il ne risque plus rien. Et puis, chemin faisant, c'est l'un des rares, parce qu'il y a peu de héros quand il s'agit de se dresser devant la loi, c'est l'un des rares qui va prendre le parti de l'aider à essayer de trouver quelqu'un. Et en fait, il prend ce parti-là parce que, en parallèle du parcours de mon personnage, il fait le chemin aussi. Il se pose des questions, il se demande ce qu'elle est en train de traverser. Et donc, pour moi, le pire ennemi, c'est l'ignorance. Enfin, la pire ennemie, c'est le fait de ne rien savoir, quoi.
La honte, c'est un titre d'un des livres d'Annie Ernaux qui restituait justement la honte sociale dans laquelle elle a vécu quand elle a commencé à aller au lycée, parce qu'elle n'osait pas dire de quelles origines sociales étaient ses propres parents. La honte, c'est un mot aussi qui revient dans votre film, Audrey Diwan, et dans les mots utilisés par Annie Ernaux. Et au fur et à mesure de la construction de votre récit cinématographique, eh bien, cette jeune femme parle de moins en moins et elle se sent de plus en plus exclue par les autres, exclue des jeunes bourgeoises qui sont ses copines, exclue de la société et exclue peut-être par la possibilité de s'exprimer, car elle est de plus en plus atone, voire presque muette, y compris quand un de ses enseignants croit pourtant en elle.
Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Les mots sont en régression en fait dans le récit. D'ailleurs, et je ne suis pas étonnée, les extraits qu'on entend sont plutôt au début du film parce que plus on avance, plus elle s'emmure dans le silence. Et le silence et la honte marchent main dans la main en général. Dès qu'on met des mots, on construit un chemin vers la liberté. Et quand on se tait, on s'isole et puis on rentre en soi progressivement en perdant de vue une inscription dans une société. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Anna Maria Bartolomé, avec ma jeune et formidable comédienne sur...
D'ailleurs, vous co-signez aussi avec elle.
Je co-signe avec elle
le film.
Moi, je pense que je lui dois énormément pour moi.
Comme non, mais c'est bien. Hein, généralement, c'est pas les garçons qui co-signent. Il y a une idée de partage dans la collaboration artistique du film.
Pour moi, c'est central. Mon dispositif consiste à ne pas regarder ce personnage, mais tenter d'être elle. Ce qui veut dire qu'elle est de tous les plans, de toutes les secondes. Donc, tout se construit avec cette jeune femme que je considère comme ma partenaire intellectuelle. Et donc, quand il est question de silence, on se dit, mais il faut qu'on utilise le silence comme une matière, en fait. Il faut que ce soit des silences habités. Donc, je lui ai écrit des monologues intérieurs qu'elle corrige. Et en fait, quand elle est silencieuse, elle essaye de faire passer des idées. Parce qu'elle n'a plus d'autres armes, parce qu'elle n'a pas de mots. Et parce qu'il faudra plus tard aller à la conquête des mots. Il faudra pouvoir dire un jour ce mot qui n'est pas prononcé de tout le film, mais pour une bonne raison. On ne dit pas avortement parce qu'à l'époque, on ne dit pas ce mot-là. Parce que le tabou, c'est le silence. Et que je voulais retranscrire cette idée-là.
Je vous propose d'écouter un reportage sur la loi anti-avortement au Texas. C'est un papier de Thomas Arms, envoyé spécial de France Inter. C'était le 1er novembre dernier.
Pour nous, la limite reste 6 semaines.
Maddy a 21 ans. Elle utilisait des contraceptifs, mais l'étudiante a dû se rendre à l'évidence et faire un test de grossesse. Elle n'avait jamais pensé que la loi texane pourrait l'affecter.
Quand la gynéco m'a dit qu'elle m'estimait à 10 semaines et demie, j'ai pleuré. J'étais terrifiée parce que je pensais que la seule option qu'il me restait, avait disparu.
Madia a appelé 30 cliniques avant d'obtenir un rendez-vous dans le Mississippi, à 7 heures de route de chez elle. Comme elle, la plupart des femmes du Texas se résignent à faire des milliers de kilomètres pour se rendre dans un état voisin comme le Colorado, la Louisiane ou même aller au Mexique. Amy Arambide est la directrice de l'ONG pro-avortement VAO Texas.
Cette loi a déjà interdit à beaucoup de femmes l'accès aux soins dont elles ont besoin. Cette loi va aussi obliger des milliers d'entre elles à poursuivre leur grossesse jusqu'à son terme, même si elles y sont opposées.
Les associations féministes craignent maintenant que les juges de la Cour suprême ne proposent ce qu'ils qualifieraient de compromis en retoquant la loi texane jugée trop extrême et en validant une loi votée récemment au Mississippi qui interdit toute IVG après 15 semaines.
Considérez-vous, Audrey Diwan, que votre film est d'actualité, même si l'action se passe dans les années 60?
Alors écoutez, moi j'ai toujours considéré qu'il était d'actualité, parce que tristement, quand on parle d'avortement clandestin, on est toujours dans l'actualité. Mais je pense que c'est la perception de l'actualité, en fait, qui est flottante. C'est-à-dire que quand ça concerne des pays d'Amérique du Sud, quand ça concerne l'Afrique et pas directement l'Europe, comme c'est devenu le cas avec la Pologne ou le monde occidental quand l'Amérique s'agite, là maintenant on a le sentiment que c'est dans l'actualité. Malheureusement, ça a toujours été dans l'actualité.
Marie Dumora, vous pensez que ce genre de film est important pour pouvoir défendre le statut des femmes et la possibilité de cette lutte pour l'émancipation des femmes qui, comme le fait remarquer Audrey justement, n'est pas la même selon les continents?
Je suis juste un peu surprise qu'on soit encore obligé de ça semble tellement évident, bientôt on va remettre la peine de mort pendant qu'on y est, enfin sur le tapis.
Ben certains en parlent.
Voilà. Non, bah évidemment, bien sûr, dès qu'on lâche un peu, on recule, donc il faut repartir en avant et reprendre la bagarre, mais c'est un peu navrant.
Considérez-vous toutes les deux que vos films sont des films féministes, Marie?
Peut-être humanistes au sens de Renoir, au sens de Ford, au sens de Pial, enfin je sais pas comment dire.
Ça c'est que des hommes.
Hein. Oui c'est vrai.
Mais il y a des très grands cinéastes hommes.
Oui, et puis Claire Denis, il y a plein de femmes formidables, je sais pas là tout à coup, mais féministes, je me rends pas compte, probablement, je ne sais pas quoi répondre, excusez-moi, mais féministe bien sûr, il faut l'être.
Et vous Audrey?
Bah écoutez, je vous dirais surtout que moi, je suis féministe, donc et qu'une partie de mon regard...
Votre plus tendre âge?
Écoutez, en fait, c'est bizarre, parce que ça, il s'agirait de mettre une date au moment où on pose le mot. Alors, je pense que ça s'est intensifié à compter du moment où j'ai fait des études de sciences politiques, mais je pense que j'ai été construite comme ça. Après, je pense qu'un regard est complexe et que mon regard, je ne l'intègre... Je considère qu'il ne s'arrête pas à mon genre ni à mon engagement relatif au genre. Mon engagement relatif au genre en fait partie. Mon regard est entre autres féministe. Mon regard est aussi le fruit d'un vécu, d'une histoire, d'une culture, d'une cinéphilie. Et il intègre ce que je pense du genre, évidemment.
En tout cas, la fin de vos deux films est identique. On parlait de la construction de la personnalité de ce jeune Nicolas qui est en train de choisir là où il veut aller, avec force et dignité. Et la fin de votre film, Audrey Diwan, l'est aussi, parce que votre héroïne va quitter le silence par une phrase assez lapidaire et va pouvoir dire à son enseignant là où elle veut aller.
Oui, il y a quelque chose que je trouve beau dans ces deux fins de film et qui sont en fait une seule et même réflexion sur l'égalité. Et je pense que quand on nous pose des questions aujourd'hui, quand on interroge notre féminisme et quand vous répondez humanisme, je pense que l'idée qui traverse les deux films et celle pour laquelle il faut le plus se battre, c'est évidemment l'égalité, l'égalité des chances et la possibilité de se créer, de s'écrire un avenir.
Merci beaucoup, les filles. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie?
Je veux dire, quelles que soient les classes sociales.
Évidemment.
Quels que soient les milieux sociaux, quoi.
Merci beaucoup et vive les filles. Merci, Marie Dumora. Je rappelle que votre film s'intitule « Loin de vous, j'ai grandi » et que le vôtre s'intitule tout simplement « L'événement » d'après Annie Ernaux et qu'il a quand même, excusez du peu, obtenu le Lion d'or à la Mostra de Venise. Vraiment super, les filles.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Et c'est avec Jolene de Dolly Parton que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Thomas Langlin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian, à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux et bien sûr à Camille Maty qui ce soir a réalisé cette émission.